midi avec Marceau et Pascal CV.
Les amis, c'est 5 degrés sur Québec pour aujourd'hui. C'est de la pluie intermittente, maximum de 9. Ce soir, pluie intermittente. Minimum de plus 3 degrés. Demain, mardi, un ciel dégagé. Avec des petites rafales en matinée à 50 km/h, un ciel dégagé en soirée. Maximum de plus 4 pour demain. Un minimum de moins 8 en soirée. Pour ce qui est de mercredi, c'est ensoleillé, maximum de plus 1. Jeudi, ensoleillé, maximum de plus 3 degrés. Et vendredi, ce sera de la neige intermittente, maximum de plus 1 degré pour ce qui est de vendredi. T'as-tu tes pneus d'hiver, Pascal?
Oh que oui, depuis au moins 3 semaines.
T'as-tu des tires à clous?
Non, j'ai pas de tires à clous.
T'as pas de tires à clous?
Les stationnements intérieurs, c'est pas écrit. Hein?
Il y en a qui trichent quand même, là. Qui arrivent avec leurs pneus à clous dans les stationnements souterrains. C'est sûr que ça magane un peu plus le béton.
Mais moi, je suis tellement à cheval des règlements, tu comprendras.
Toi.
Mais son neuf, par exemple, ça, je suis bien fière, ça a toujours été une priorité. Peu importe le bazooka, si t'es bien chaussé, ça te donne une chance.
All right, Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables est au bout du fil. Salut, Nick.
Salut tout le monde, ça va bien?
Ben oui, ça va bien. Tu voulais revenir sur les élections américaines. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur les élections américaines, Nick?
Ben écoute, je pense qu'il y a bien des choses qui ont été dites dans les dernières semaines, mais on s'entend. Mais je pense que le point important qu'il faut rappeler, c'est à quel point on est au Québec puis on doit dealer avec les conséquences des élections américaines, peu importe ce qui arrive. Et dans ce cas-ci, ben on doit se le dire franchement, les événements qui vont se dérouler au courant des prochains mois vont être assez intéressants, surtout dans les prochaines années, quand on considère plusieurs choses, non seulement les renégociations des accords là, entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, mais aussi l'avenir de la fameuse filière électrique de François Legault qui nous vante et qui nous promet depuis déjà plusieurs années et qui gonfle à coup de subventions, comme on l'a vu à répétition depuis quelques temps. Et clairement que ça fait partie des choses qui vont être beaucoup plus là, à regarder au courant des justement, comme je dis, des prochaines années. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, oui, le changement de garde à la Maison-Blanche, si plusieurs personnes n'avaient peut-être pas vu venir, même si c'était prévisible pour plusieurs autres, il n'en reste qu'à la fin de la journée, ça va changer drastiquement la donne par rapport aux ambitions qu'on a en ce qui concerne à la fameuse filière des batteries électriques et à l'électrification du Québec en général. L'arrivée de Donald Trump, c'est quand même assez peut-être surprenant, mais au final, ça va changer la donne comme ça se peut pas. Puis la première chose que je peux dire, c'est écoutez, on a vu plusieurs politiques être déployées par l'ancienne administration Biden à cet effet, puis c'est la raison pour laquelle au Canada, on s'est lancé dans cette forme de course à l'électrification. On a vu ça avec les différentes subventions qu'on a données à Stellantis, Volkswagen et Northvolt, mais ça fait partie d'un contexte plus large où est-ce qu'on savait qu'aux États-Unis, sous l'administration Biden, on a déployé la fameuse IRA, la Inflation Reduction Act, qui a pour but d'encourager cette fameuse filière électrique américaine à travers des grosses subventions. Déjà pour une industrie qui est beaucoup plus compétitive et productive que la nôtre. Et au final, l'administration Trump, on le sait, dès le jour 1, veut éliminer cette fameuse Inflation Reduction Act, donc l'IRA comme telle. Et la raison pour laquelle il y a eu autant de subventions qui ont été faites dans les dernières années par Trudeau et Legault et Ford dans cette industrie-là, c'est notamment pour offrir aux entreprises canadiennes des paquets de subventions qui sont compétitifs avec celui des Américains. Or, ces subventions-là sont conditionnelles à ce que les Américains conservent les leurs. Donc, si les Américains, que ce soit sous l'administration Biden ou sous Trump, se débarrassent de l'IRA comme tel et donc des subventions à la fameuse filière électrique américaine, ben, ça a déjà été annoncé que le gouvernement québécois et canadien et ontarien se retirait également de ces fameux paquets de subventions qui sont déjà offertes à ces entreprises-là. Et on l'a vu dans les derniers mois, Northvolt, ça bat de l'aile, Lyon Électrique, ça bat de l'aile, les différents projets aussi comme celui de Ford avec Encore et autres, il y a eu beaucoup de difficultés à ce niveau-là. On s'attend à ce qu'il y ait des injections d'argent privé supplémentaire qui soient faites pour ensuite de faire plus de subventions publiques. Et pour l'instant, ça ne semble pas vouloir arriver et la disparition de ce programme-là aux États-Unis va avoir un impact majeur à quel point on peut s'attendre à la réalisation de cette filière électrique-là. Donc, mon point est que Legault, dans les dernières semaines, a été assez alarmiste. Il n'a pas été très rassurant dans ses sorties publiques par rapport à comment est-ce qu'on doit dealer avec ce nouveau gouvernement ou cette nouvelle administration qui s'en vient dès janvier 2025 aux États-Unis. Mais je pense qu'il devrait effectivement faire preuve d'un peu plus d'audace puis préparer le Québec à un changement de gouvernail là, ou à un changement de direction assez drastique par rapport à ses propres ambitions électriques.
Donald Trump, c'est un « Make America Great Again ». Donald Trump, c'est un protectionniste. America first. Y a-tu moyen qu'on s'en sorte sans trop de dommages pour ce qui est de l'import-export? Je pense, entre autres, au bois là, qu'on envoie aux États-Unis qui nous est retourné par la suite. Y a-tu des ententes qui vont se faire en disant « Bon, c'est parce que vous autres, il vous manque de bois. Fait que si vous commencez à nous faire suer ailleurs, on peut peut-être vous faire suer de ce côté-là. » Ça va être des deals à faire, là.
C'est sûr, mais c'est ça, c'est le plus grand problème dans toutes les politiques protectionnistes économiques d'une manière ou d'une autre, c'est que le plus grand perdant à la fin de la journée, c'est le consommateur, c'est le contribuable. Puis quand il y a un bras de fer qui se fait dans un contexte de guerre commerciale, ben je veux dire, c'est vous et moi qui sommes pris entre les deux. Puis on sait qu'au Québec, bon, on a quand même notre approche protectionniste. C'est pas comme si ça datait d'hier. Ça fait longtemps qu'on a des gouvernements protectionnistes qui se succèdent à ce niveau-là. Sauf qu'effectivement, au fédéral, on le sait, Trump, il veut mettre des tarifs d'un bord puis de l'autre. Il veut mettre des tarifs sur les entreprises américaines, sur les biens qui sont importés en sol américain. Et il veut ensuite favoriser l'arrivée de d'autres entreprises ou le déménagement de plusieurs de ces entreprises-là en réduisant les impôts. Donc, d'une manière ou d'une autre, on pourrait être affecté parce que déjà que nous, les impôts sur les entreprises au Canada en général sont plus élevés qu'aux États-Unis. On a des réglementations plus lourdes. On a aussi un gouvernement Trudeau qui rajouter beaucoup de nouvelles taxes, notamment la taxe sur le carbone ou l'impôt sur le gain en capital, qui font en sorte que les entreprises canadiennes ont moins intérêt à investir ici, peut-être même à déménager, puis les entreprises américaines peut-être à se retourner vers les États-Unis. Ou est-ce qu'on a un certain Donald Trump qui veut en plus baisser les impôts sur les entreprises et se retirer d'un paquet d'accords contraignants qui apportent des réglementations qui limitent la compétitivité des entreprises. Donc, à ce niveau-là, on pourrait être perdant parce qu'il pourrait avoir un exode de capitaux et d'entreprises vers le Sud, mais il y a aussi le fait que, oui, il y a le contexte d'une guerre commerciale qui pourrait s'installer. Cependant, c'est pas parce qu'on dit que Trump est un protectionniste qu'auparavant, Biden ne l'était pas. Parce que, comme je vous disais au départ, la fameuse l'IRA ou la Inflation Reduction Act de Joe Biden, ben, c'était une administration démocrate et c'était une politique très protectionniste qui affectait inévitablement le Canada. Donc, que ce soit bleu ou rouge à la Maison-Blanche, le discours protectionniste qui est assez populaire depuis plusieurs années...
Mais c'est une valeur américaine. T'sais, c'est quand même... les États-Unis ont monté leur propre financement, leur propre économie avec ce genre de politique-là. C'est juste que les républicains sont un petit peu plus forts là-dessus. Puis Donald Trump, en étant ancien homme d'affaires, je dis ancien, il est encore un peu, mais c'est la même chose pour lui, tu sais. Sauf que on dirait que les gens, par rapport aux élections, n'avaient pas cette vision-là, peut-être, du protectionnisme très, très, très important et puissant de Donald Trump. Là, on parle de migration d'entreprises du côté des États-Unis, mais avec Poilievre, à quoi on peut s'attendre s'il passe, parce qu'il est encore en majorité dans les intentions de vote, entre un Trump et un Poilievre sur ces façons-là de négocier l'économie?
Bien, c'est une très bonne question parce que à la fin de la journée, ce qu'on doit faire, c'est plutôt trouver le moyen de s'adapter à cette situation-là parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Et dans un contexte où est-ce qu'on voit que les Américains deviennent plus protectionnistes et essaient de gonfler leur productivité par rapport à la note, ben c'est sûr et certain qu'on doit se demander ben comment est-ce que nous on peut faire pour rester compétitifs et s'assurer à ce que les entreprises restent au Canada. Puis ça, ben ça serait effectivement de s'attaquer à tout ce qui a été fait dans les dernières années par peut-être le gouvernement Trudeau et aussi par les différents gouvernements provinciaux qui devraient se regarder dans le miroir et se dire ben comment est-ce qu'on peut faire pour faciliter la rétention de nos entreprises et des capitaux au Canada pour éviter qu'il y ait une exode vers le sud ou qu'on soit trop affecté par ces différents nouveaux tarifs qui pourraient justement affecter les emplois au Québec comme dans le reste du pays. Donc, plusieurs choses peuvent être faites. On peut justement nous-mêmes s'attaquer à la question de l'impôt sur les entreprises, la question de l'impôt sur le surtemps, les questions de taxes, que ce soit sur le carbone ou que ce soit sur les différentes augmentations de l'impôt sur le gain en capital. Toutes ces mesures-là ont nécessairement nui à la productivité des entreprises canadiennes au cours des dernières années. Et là, on se retrouve avec un gouvernement américain qui va aller encore plus loin pour doper la sienne. Donc, je pense que je dis pas qu'il faut qu'on imite ce que les Américains vont faire, mais si on veut vraiment entrer dans une joute où est-ce qu'on peut tirer profit de cette situation-là, on peut pas non plus essayer de faire un genre de double down puis être encore plus protectionniste que les Américains parce qu'on va être encore plus perdant qu'eux à la fin de la journée. Faut se rappeler que c'est notre plus important partenaire commercial et qu'on a plus intérêt à essayer de s'aligner sur leur politique plutôt que de se les mettre à dos parce qu'on va être perdant sur toute la ligne.
Mais on est perdant d'abord. Je t'écoute puis je trouve qu'on est quand même perdant, peu importe la situation.
C'est triste à dire, c'est ce qui arrive quand on est le David à côté d'un Goliath. Il y a quand même on a quand même eu des surprises dans les négociations avec Trump. Il faut aussi se rappeler une chose. Oui, la situation semble imprévisible pour les prochaines années, mais c'est juste c'est plus une apparence qu'autre chose, parce qu'on a déjà vu Trump au pouvoir en 2016 et 2020. C'est pas comme si on n'avait jamais eu à dealer avec le personnage auparavant. Il y a déjà eu des négociations avec lui en 2018, d'ailleurs, là, par rapport à l'ancienne, l'ALENA, qui a été carrément réécrite dans une bonne partie. Et on s'attend à ce qu'il y ait des nouvelles négociations en 2026. Donc, on sait comment se préparer par rapport au personnage et à son équipe. Donc, on va être possiblement en mesure de protéger l'ensemble de nos industries. On l'a vu par le passé, entre autres, avec la question de la gestion de l'offre. Finalement, c'est à peu près 3,6% du marché laitier canadien qui a été ouvert aux Américains, au lieu de ce qu'on aurait pensé, donc son abolition complète comme a été demandé au départ. Donc, il y a quand même eu des gains relatifs là, par rapport à ça, même avec l'ancienne administration de Trump, et je m'attends à ce qu'on soit en mesure quand même de tirer profit et de bien négocier si on a une bonne équipe pour négocier avec Trump dès son arrivée au pouvoir puis durant les prochaines négociations.
On parle maintenant du projet de loi C-65. C'est un projet de loi qu'on avait déjà jasé, toi et moi, qui vise à reporter les élections fédérales d'une semaine pour permettre à 80 députés fédéraux d'obtenir des pensions à vie pour les contribuables. On en est rendu où dans ce dossier-là?
Oui, ça a changé pas mal dans les dernières semaines parce que pour ceux qui, comme tu l'as mentionné, pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y a le fameux projet de loi C-65, ça a pour but de déplacer d'une semaine les élections fédérales du 20 octobre au 27 octobre 2025. Et sur le coup, ça a été proposé pour essentiellement à titre d'accommodement religieux parce qu'il y a une fête qui s'appelle la Diwali, qui est une fête indienne qui a lieu pendant cette période-là. Et le gouvernement libéral disait, on va déménager les élections d'une semaine pour permettre aux gens d'aller voter quand ce sera il n'y aura plus de célébrités en cours. Sauf qu'en déménageant ces fameuses élections d'une semaine, en les reportant, en fait, on donne automatiquement, en fait, il y a 81 élus à la Chambre des communes qui se trouvent à être automatiquement qualifiés pour une pension à vie si jamais ils perdent leurs élections dans le cadre des élections de 2025. Donc, sur le coup, on peut se dire s'il y a peut-être anguille sous roche, c'est peut-être pas la raison principale du déménagement des élections comme telle. Et il y a un comité à la Chambre des communes qui se penche sur le dossier, sur ce fameux projet de loi-là. Pour l'instant, la plupart des partis de l'opposition s'opposent au déménagement au report des élections comme tel. Donc, vous avez les conservateurs qui s'y opposent. Vous avez le Bloc québécois qui s'oppose aussi à cet accommodement-là et qui trouve que c'est un détournement démocratique. Donc, c'est un bon point pour eux également. Le NPD a fini par rejoindre les rangs. Et il y a même une députée libérale qui a récemment mentionné qu'elle voterait contre ce projet de loi-là. Nous, notre propre directeur fédéral, Franco Terrazano, qui est allé représenter la Fédération canadienne des contribuables sur le comité la semaine dernière pour leur dire qu'on s'opposait sincèrement à ce projet de loi-là. Et pour l'instant, on s'attend à ce qu'il y ait des gains qui soient effectués au courant des prochaines semaines à ce niveau-là. Il va y avoir un vote final d'ici la fin de la session parlementaire. Il faut rappeler qu'on parle quand même de plusieurs millions de dollars que ça coûterait au final. Dans les calculs que nous, on a fait, non seulement il y a 81 députés qui se qualifieraient pour la pension comme telle, mais si toutes ces personnes-là se rendent jusqu'à l'âge de 90 ans et profitent de leur pension à vie, ben ça coûterait quand même 120 millions de dollars aux contribuables pour des députés qui auraient bougé les élections d'une semaine pour en tirer profit sur le dos des contribuables.
Et ça, c'est sans compter que si à 80, ils sont mariés avec une femme de 50 ans puis ils meurent à 82, ben c'est la moitié qui s'en va directement à la femme de 50 ans.
C'est effectivement un fait. Donc, c'est effectivement à prendre en considération. Donc, il faut rappeler que, ces députés-là ne sont pas, tous les députés qui profiteraient de cette pension-là ne sont pas nécessairement ceux qui sont en faveur du projet de loi, parce qu'il y a beaucoup de bloquistes là-dedans, comme je disais, qui s'opposent au projet de loi, mais qui en profiteraient inévitablement. Mais il y a beaucoup de libéraux aussi. Il y a quand même beaucoup de néo-démocrates et de conservateurs. Mais nous, on a rappelé que la majorité des Canadiens s'opposent au report des élections et que la majorité jusqu'à maintenant, des parlementaires s'y opposent. Donc, avec un peu de chance, on pourrait sauver de l'argent aux contribuables canadiens de part et d'autre à travers le pays et faire en sorte que les élections aient lieu le 20 octobre, comme ça devrait être le cas en bonne et due forme.
Tu passes un beau week-end?
Ouais, c'était correct. Ben écoute, moi, j'ai passé une bonne semaine. J'ai passé un bon 3 jours la semaine dernière. J'étais à Miami. Puis après ça, je suis allé à Punta Cana avec la famille pour un mariage d'un de mes cousins. Donc, j'ai quand même une très belle semaine. Sauf qu'il n'y a plus dans la dernière journée, mais c'est... Mettons que j'ai bien profité de ma fin de semaine, mais là, je reviens, puis il fait froid, puis on est vraiment aux portes de l'hiver, donc c'est ça. C'était le fun, mais là, c'est rendu gris.
Ben, c'est parfait. Mais j'étais sur le point de dire, écœure-nous donc pas avec ton bonheur.
T'sais. Mais je l'imagine mal, Nicolas, dans la piscine à mousse, par exemple.
Ouais, peut-être, il est capable. Allez, vous parlez, là-bas, à Punta Cana, même en voyage, ça parlait-tu de l'élection de Donald Trump?
Non, pas du tout.
Pas
en fait.
Tout, hein?
Non, c'est,
ça les intéresse
c'est
pas.
À quel point. Non, tu sais, je reviens au Québec, puis tout le monde en parle. Moi, j'en parle un peu parce que dans les circonstances, ça va affecter le bas de laine des contribuables québécois et canadiens, ne serait-ce qu'à court moyen.